grâce et la paix de Noël vous sont données ce soir, ici et maintenant, dans ce lieu, à toutes et à tous. À toutes et à tous aussi, au loin, ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux et qui sont avec nous autrement, virtuellement et en même temps complètement en communion avec nous. Nous nous réunissons ce soir pour fêter un anniversaire et nous souvenir de cet événement extraordinaire, de la naissance d'un enfant qui bouleverse le monde. Toute naissance bouleverse le monde. Toute naissance est un événement extraordinaire. Et nous avons ce soir la chance de pouvoir être dans la paix, dans ce lieu, et pouvoir fêter Noël dans un pays en paix. Et je voudrais que chacun ici se souvienne que nous avons cette chance extraordinaire ce soir et que nous pouvons être en communion avec tous ceux qui n'ont pas cette chance. Je vous invite à la prière. Éternel, loué sois-tu pour cette attention que tu crées en nous, aux tout petits, à ceux qui sont notre avenir, à ceux qui grandissent autour de nous et pour qui tout être humain voudrait le meilleur. Éternel, loué sois-tu pour les enfants qui peuplent nos vies, ceux qui sont ici avec nous, ceux qui sont devenus grands et qui restent dans notre cœur à jamais nos petits, ceux qui ne sont plus et qui pourtant existent tellement dans nos vies. Éternel, loué sois-tu pour tous ces êtres qui ouvrent un avenir et qui nous permettent de nous projeter dans le futur et de transformer le monde, de le désirer meilleur sans cesse pour eux. Éternel, loué sois-tu pour ces enfants qui nous poussent à changer, à nous transformer, pour qu'ils puissent grandir avec des adultes qui s'adaptent au monde qui change. Éternel, loué sois-tu pour ces enfants qui apportent la joie, qui apportent l'insouciance, qui apportent tant de naïveté parfois et tant de sagesse au milieu du monde des grands. Éternel, loué sois-tu pour cet amour inconditionnel que tu places dans nos cœurs et que tu fais rayonner si bien quand nous sommes auprès d'un tout petit. Loué sois-tu. Et je vous invite à entendre la lecture de la généalogie dans le texte de Matthieu. Ce soir, nous ferons route avec l'évangile de Matthieu. Et je vais demander à Aude, à Denis et à Julie de venir me rejoindre pour partager ensemble cette lecture qui est un morceau de bravoure, hein, parce que quand on lit les noms qui sont dans la Bible, ça va vous donner plein d'idées pour nommer les petits-enfants à naître dans vos familles, mais ce n'est pas toujours des noms très faciles à porter, vous allez voir.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Phares et Sarah. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, avec Rahab, engendra Boès. Boès, avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David.
Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone.
Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui que l'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ.
Merci. Voilà, nous sommes tous dans cette génération, nous sommes tous à la suite de tous ceux qui ont engendré à leur façon, dans leur histoire, dans leur temps, le Messie. Et je vous invite, pour fêter ce peuple fidèle à la suite de cette longue généalogie de Jésus, à prendre le cantique « Ô peuple fidèle », le cantique 101 dans les louanges et prières, les petits livres bleus que vous avez. 101, et nous chanterons les 3 strophes. Et nous nous levons. Je vous invite à vous asseoir. Cette naissance extraordinaire racontée par les évangiles est annoncée dans les prophètes. En tout cas, c'est ce que les chrétiens ont voulu y voir, une annonce. Dans Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 5, il est écrit « Alors, un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la probité, la ceinture de ses hanches. Je vous invite à chanter cet arbre de Jessé avec le cantique 103 d'un arbre séculaire, les strophes 1, 2 et 3, et nous nous levons. Et nous restons debout pour entendre le prophète Ésaïe qui annonce « Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi et de la joie des moissons. De l'allégresse qui règne au pays pour le partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme un jour de Madian.
Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Il étendra la souveraineté, étendre cette souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur Adonai. Et je vous invite à vous émerveiller ensemble de la naissance de ce Fils admirable. Émerveillons-nous ensemble avec le 108, le cantique 108. Les strophes 1, 2, 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Parcourons ensemble cet évangile de Matthieu qui nous offre ses récits de nativité. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, « Car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda. Car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva et prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand Hérode se vit joué par les anges, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Ce qui est magnifique dans ce récit de nativité, c'est quand on nous raconte des rêves, rien que des rêves. Il n'y a pas moins que 5 rêves dans ce récit. Le premier rêve, c'est Joseph qui le fait. Il rêve et laisse Dieu le convertir à une autre façon de voir les choses. Dans son rêve, la peur est repoussée. Il n'est pas obligé de se conformer à la morale ambiante. Il n'est pas obligé de répudier sa femme, Marie. Il peut assumer avec elle ce qui est difficile. Il peut être courageux pour deux. Le rêve lui a ouvert un horizon pour sortir de son dilemme par le haut. Et quelle hauteur ! L'enfant à naître est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et les premières personnes que sauve cet enfant à naître, ce sont ses propres parents, en fait. Marie et Joseph, il les sauve de la peur, il les sauve de la médiocrité qui vise à se conformer aux règles établies pour avoir la tranquillité. Il les sauve d'une vie de renoncement et les entraîne dans l'audace de la foi. celle qui fait vivre, celle qui déplace des montagnes et guérit les cœurs et les âmes. Le deuxième rêve, ce sont les mages qui vont le faire. Les mages rêvent aussi, et ils rêvent d'une autre route que celle que tous les dignitaires empruntent pour coller aux usages de la diplomatie de ce temps. Ils ne retourneront pas auprès d'Hérode, et ils ne lui donnent pas les informations qu'il demande. Les mages sont convertis eux aussi au cœur de leurs rêves, à une liberté qui les pousse à résister aux injonctions d'un roi puissant mais sanguinaire. Ils ne participeront pas à la folie d'Hérode, à sa paranoïa qui prend pour cible le petit enfant qu'ils viennent de voir. Il mérite mieux qu'une dénonciation, ce petit qui a tellement d'importance à leurs yeux maintenant. Et eux, maintenant qu'ils ont contemplé ce petit homme qui arrête les étoiles, eux valent tout d'un coup beaucoup mieux aussi, beaucoup mieux qu'une méprisable dénonciation, qu'une veule collaboration. Le troisième rêve, c'est Joseph de nouveau qui le fait. Il rêve encore, comme dans une parole de guérison évangélique, il entend dans son fort intérieur « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Ce « lève-toi et marche » est une mise en route digne de Jésus le guérisseur, lui qui remet debout les êtres paralysés par la peur, par la fatalité, par le manque de foi. C'est comme s'il disait cette autre parole biblique « Choisis la vie afin que tu vives ». Alors Joseph sait qu'il devra tout faire pour que cet enfant, qui n'est après tout peut-être pas le sien, devienne son fils. Un fils à protéger, un fils à aimer, un fils à sauver, même s'il est destiné à être lui-même le sauveur. Jésus est l'enfant de Joseph pour toujours, l'enfant donné comme un trésor et qu'il ne faut pas risquer de laisser aux mains d'un roi fou de jalousie, comme Hérode. Joseph, le père, est le même que Joseph, le frère dont parlent les Écritures et qui, vendu en Égypte, se retrouve à sauver sa famille. C'est le Joseph du lien de filiation, celui qui fera rapporter les ossements de son père sur la terre natale, par devoir sans doute, mais surtout par conscience qu'il y a des choses qu'on ne se pardonnerait pas de ne pas les avoir faites. De Joseph en Joseph, la Bible nous raconte comment les rêves convertissent les cœurs, comment les rêves sauvent les vies, comment les rêves façonnent les histoires humaines. C'est encore un rêve, un quatrième cette fois, qui avertira Joseph qu'il peut revenir sur la terre de ses ancêtres. Et puis, il y aura ce cinquième rêve de prudence qui lui dira qu'il faut rester à l'écart, en Galilée, parce que ce n'est peut-être pas fini. La violence n'est jamais très loin. Ce qui est magnifique dans ce récit aussi, c'est qu'il nous raconte les premières années de vie de celui qui sera le Messie en passant par un rêve. Et ce rêve qui guide la volonté, qui éclaire le jugement, qui rend sage les audacieux, c'est le rêve des prophètes, le rêve de ceux qui croient et qui ont comme tâche de transformer le monde en royaume de Dieu. Ce qui est magnifique, c'est que, comme nos rêves, ces rêves évangéliques sont constitués des désirs de salut de ceux qui les font. Alors à quoi rêvaient les fidèles pour lesquels a été écrit l'évangile de Matthieu? Alors à quoi rêvaient les rédacteurs de l'évangile de Matthieu pour qu'ils nous racontent une telle histoire? Les auteurs de l'évangile de Matthieu ont rédigé cette aventure pour une communauté de juifs convertis à l'enseignement de Jésus, vivant en diaspora, en Syrie, sans doute du côté d'Antioche-sur-l'Oronte. Cette ville était une étape importante sur la route de la soie. Cette communauté d'exilés qui a dû quitter la Judée après la destruction du Temple en 70 rêve sans doute d'un retour possible à une paix retrouvée, d'un retour d'exil. Car c'est bien un peuple en exil qui écrit tous ces récits de nativité. Rien d'étonnant alors que le premier grand exil qui marqua la conscience collective du peuple d'Israël, l'exil à Babylone, imprègne ces récits de naissance, écrits après coup, après la mort de Jésus, après la destruction du Temple, après le départ des Judéens pour des contrées lointaines comme la Syrie. Dans cette ville étape pour les grandes caravanes commerciales, on se souvient que le salut était venu de Perse, contre toute attente, de là où d'habitude venaient les grands envahisseurs. Cyrus le Grand était devenu sauveur. Cyrus le Grand, l'empereur perse, dont les Hébreux avaient fait dans leur histoire nationale le Messie de Yahvé, loin de Dieu, avait conquis Babylone. Et il avait bien traité les exilés et leur avait permis de rentrer à Jérusalem pour reconstruire leur temple, restituant toutes les richesses dont Israël avait été spoliée par Nabuchodonosor II. Et c'est le livre d'Esdras qui nous raconte cela, dès ses premiers chapitres. Cyrus le Grand était donc un roi juste, non juif, certes, mais un prince de paix comme l'espéraient les prophètes bibliques. Est-ce la religion de ce grand roi qui donna l'idée au rédacteur de l'évangile de Matthieu de cette visite des mages, ces mages dont les savants astrologues, comme les prêtres du zoroastrisme, la religion de l'Empire perse qui avait comme prophète Zarathoustra, et qui prônait une égalité pour tous, hommes et femmes, une égalité avant l'heure, parce qu'ils étaient peu nombreux à penser comme cela à cette époque-là. Une religion qui, elle aussi, parlait d'amour du prochain et qui, elle aussi, était monothéiste dans un paysage où beaucoup étaient non pas monothéistes, mais croyaient à des divinités absolument multiples. Alors que ces mages viennent trouver l'enfant Jésus est l'expression d'un rêve d'un nouveau Messie à la manière de Cyrus le Grand. Un pourvoyeur de paix, de justice et d'amour du prochain. Ces mages ont le privilège d'être avertis en songe des desseins de Dieu. Ils sont eux aussi inspirés par le même Dieu que celui des Hébreux. Pour les exilés de la diaspora juive, la foi n'a plus de frontières, elle n'a plus de territoire. Pour eux, la Terre Sainte, c'est leur foi, celle qu'ils partagent avec toutes les femmes et tous les hommes qui croient qu'un avenir meilleur est possible. Le récit de naissance de l'évangile de Matthieu est très tardif. Il s'ajoute à une tradition de textes évangéliques qui sont plus anciens. Au moment où l'on cherche à donner une origine miraculeuse et prophétique à Jésus, savait-on qu'autour de Jérusalem, un homme surnommé Bar-Corba, fils de l'étoile en hébreu, menait une révolte contre les Romains pour reprendre Jérusalem ? Cette résistance redonnait peut-être espoir à ceux qui avaient imaginé qu'une étoile serait signe de salut. Et c'est peut-être à cette histoire que nous devons ces récits extraordinaires. Mais nous, en 2022, à quoi rêvons-nous ? Quel évangile pourrait raconter nos rêves ? Quelle langue onirique un prophète d'aujourd'hui pourrait bien prendre pour écrire notre évangile, notre récit de nativité, d'un salut pour ce monde. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants aujourd'hui encore sont en exil pour fuir un pays en guerre et le massacre des innocents. Tant de femmes aujourd'hui encore, comme Rachel aux temps anciens, pleurent leurs enfants qui ne sont plus. Tant d'êtres humains sont aujourd'hui encore à la merci de puissances qui les dépassent et écrasent leur vie. Comment ne pas se sentir proche de ceux qui, il y a plus de 2000 ans, ont écrit ces récits ? Alors que les grandes puissances de notre temps se tiennent en respect sans savoir qui fera le premier faux pas qui entraînera toutes les autres dans un déferlement de violence, nous attendons un salut. Un salut contre la peur, un salut pour les pays dévastés par la guerre, un salut contre les tyrannies qui n'en finissent pas de persécuter les plus faibles, et souvent en premier les femmes et leurs enfants, les opposants politiques ou les minorités ethniques. Exilés en nous-mêmes, sans pouvoir nous sentir installés dans la vie que nous menons, nous faisons l'expérience d'une histoire précaire, où les échanges internationaux, comme au temps où écrivaient les rédacteurs de Matthieu, apportent le meilleur en commerce et en solidarité, et le pire dans la contagion du mal. Alors contre la peur, contre le fatalisme, contre les réactions de fermeture et de haine, devant cette grande incertitude que nous devons tous partager, nous sommes tous ensemble et il nous faut essayer de rêver de salut, quoi qu'il arrive. Il ne s'agit pas là d'un rêve naïf qui nous berce d'illusions, mais un rêve qui nous met en route pour construire pas à pas, ensemble, le royaume de Dieu sur cette terre. Alors nous serons comme ces mages venus d'Orient avec leur idéal d'amour du prochain, qui cherchaient ce petit homme partout et qui venaient l'adorer parce qu'il correspondait à ce qu'ils espéraient eux aussi. Nous apporterons à nos contemporains, chacun à notre manière, l'or d'un pouvoir juste, l'encens de la foi en l'homme et en Dieu, et la mire du soin de l'autre, la mire de la guérison. L'étoile qui a guidé ces mages éclaire nos pas. L'évangile de Matthieu nous la présente comme une quête, comme un espoir, toujours devant nous et toujours guidant nos vies, nous guidant pour choisir la vie et la bénédiction plutôt que la mort et la malédiction. Plus qu'un enfant, c'est une prophétie qui naît à Noël, une prophétie qui s'accomplit. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Que cette lumière brille sur nous et en nous et qu'elle nous guide. Amen. Mais après tout, après ce récit, qu'est-elle devenue cette étoile dont on parle dans ces récits bibliques? Qu'est advenue cette étoile de Noël? Quand elle a fini de guider les mages, qu'a-t-elle bien pu devenir? Ça ne s'escamote pas comme ça, une étoile, quand même. En fait, le gardien de la voûte céleste était bien perplexe quand il a fallu ranger l'étoile de Noël. Il avait un problème. Les mages étaient repartis chez eux. Bethléem n'avait pas sans doute beaucoup de monde à recevoir encore et sûrement pas des hommes aussi importants que les mages. Et donc les choses s'étaient vraiment calmées un peu partout. Et qu'est-ce qu'on allait faire de notre étoile extraordinaire? Alors le préposé au rangement des étoiles, habitué au coup de balai en queue de comète, s'imposa de trouver une place où caser l'astre devenu inutile. Sa première idée fut d'en faire une étoile filante. C'est merveilleux, une étoile filante. D'abord, il trouve l'idée géniale, parce que devenir une étoile filante pour une étoile, c'est quand même un très bel enterrement. Mais bon, ça reste quand même un enterrement. Alors, pouvait-on condamner à mourir l'étoile de Noël juste après quelques nuits d'existence, cette étoile dont les âges allaient sans doute se souvenir pour l'éternité? Non. Qu'on l'a remise dans un coin de ciel, oui, mais la mort pour l'étoile de Noël, quand même pas. Alors, que faire de l'étoile? Notre concierge fit le tour des constellations pour voir si, en se serrant un peu, il n'y en aurait pas une qui accepterait une nouvelle étoile. Elle n'était pas très encombrante, en plus, cette étoile. Son importance venait surtout de la fonction qu'elle avait eue de montrer un chemin, mais sinon, elle n'était pas si grosse que ça. C'est d'ailleurs souvent comme ça. Ce ne sont pas les plus imposants, les plus utiles au monde, mais souvent les tout petits serviteurs discrets. Approchez, ces dames, les constellations, se récrièrent. Les Pléiades firent une scène, et ce fut un non catégorique. Elles, les joyaux du ciel, étaient comptées une fois pour toutes, alors ajouter une petite nouvelle à leur nombre parfait, pas question. Quelle idée de bouleverser une délicate harmonie comme ça. Où l'orgueil va-t-il se nicher de temps en temps quand même, je vous le demande. Imaginez alors la réaction des autres astres. Orion le chasseur, la grande ours et le taureau employèrent des mots fort rudes à l'égard de l'étoile et même fort impolis, mais je ne vous les répéterai pas ici. Et il fallut leur laisser la paix bien vite. Vous comprenez, ces stars-là se savent observer, contempler par de grosses lunettes. Ça les rend nerveuses, inquiètes et du coup de méchante humeur très souvent. Et puis, comme beaucoup de mortels, les constellations trouvent grande satisfaction à ne jamais rien changer. Notre concierge se rabattit donc sur l'allumeur de réverbère des avenues du firmament. Et oui, ça existe. Il faut avouer que ce n'est pas une sinécure que d'allumer tous les soirs toutes les lampes de la voûte céleste. Le préposé à ce travail est très méticuleux, il faut bien le reconnaître, mais n'allez pas essayer d'en ajouter une comme ça, l'air de rien, parce qu'alors vous auriez une bonne grève sur le tas. Il arrêterait tout de suite d'éclairer. Notre gardien essaya de le prendre par les sentiments, mais pas moyen de le convaincre. Il n'en allumerait pas une de plus, ce n'était pas dans son contrat. Alors évidemment, l'autre était bien embarrassé. Il tenta quand même le coup et profita d'un moment sans surveillance pour jeter l'étoile de Noël sur le tas immense qu'on appelle la Voie lactée. Une de plus ou de moins, après tout, ça ne devait pas se voir beaucoup. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Il fallut vite la reprendre et s'enfuir sous les cris du porte-lumière. Mais alors, comment faire? Pouvait-il remiser l'étoile indésirable dans un coin de grenier avec les vieilles lunes et les comètes qu'on ressort une fois tous les 100 ans pour leur refaire une jeunesse? Non. Mais alors où? Une étoile hors série, on n'en fait pas ce qu'on veut. On ne la met pas n'importe où. Le concierge se souvenait de la venue inopinée de cette étoile et comment elle ne tenait pas en place, ne respectant aucune trajectoire habituelle, remettant en cause les règles de la gravitation universelle, suivant son chemin à elle, s'arrêtant où et quand elle voulait. N'avait-elle pas stationné au-dessus d'un village de Judée apparemment insignifiant ? La consigne fut, semble-t-il, de la laisser faire à sa guise, parce qu'elle participait à un événement prodigieux qui allait bouleverser la terre et ses habitants. Notre concierge ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. La terre, ce n'était pas trop son rayon, lui, il s'occupait plutôt d'en haut. Lui, il s'occupait du ciel. Mais quand même, cette pensée lui donnait une idée qu'il qualifia lui-même d'élégante, tant elle était ingénieuse. L'étoile avait à voir avec la terre, c'était donc au terrien de la caser quelque part. Il rentra dans sa loge et se mit à casser l'étoile en une multitude de morceaux. Pour morceler de la lumière, il faut un certain savoir-faire quand même. Notre concierge sortit, le tablier plein de ces morceaux de lumière, et comme le semeur de la Bible, il se mit à semer à pleine main sur la terre la lumière de cette étoile, cette semence d'un genre nouveau. Il en jetait partout. Une étoile, pensez donc, ce n'est pas comme quelques miettes, hein, même si ça paraît bien petit vu de loin. Une étoile, c'est assez énorme quand même, alors les morceaux tombaient partout. Mais pas n'importe où. L'étoile de Noël connaissait la sagesse selon laquelle il faut savoir mettre dans ses petites actions, dans ses petits gestes, dans ses petites paroles, les mêmes nobles et grands sentiments que l'on met d'ordinaire dans les grands coups d'éclat. Chacun de ces morceaux de lumière, avec intelligence, alla se placer à un endroit où il pourrait continuer quelque chose de son grand rôle de Noël. Dans ces grandes semailles, les uns vont alors se loger dans les chambres des malades, où on a besoin d'une petite veilleuse contre la peur. D'autres morceaux vont rejoindre celles et ceux qui dormaient sur les trottoirs, là où il est besoin de chaleur et de réconfort contre le désespoir. D'autres vont alors se glisser dans les maisons éteintes, là où il est besoin de rallumer la flamme de l'amour. D'autres sont allés un peu partout, par ici, même dans ce temple. Et je pense qu'on peut encore en retrouver des morceaux. Et d'ailleurs, si vous ouvrez vos petits livres de chant, alors je vois ceux qui ont encore la foi et ceux qui l'ont vraiment plu. Ouvrez vos livres de chant, je vous promets, allez-y. Ouvrez l'enveloppe qu'il y a dedans. Et je suis sûre que vous trouverez pour vous un petit morceau de cette étoile de Noël pour qu'elle brille à jamais dans vos vies et qu'elle vous bénisse pour toujours. Merci. Et sans plus attendre, je vous invite à chanter « Brillante étoile du matin », le cantique 90. vous invite à vous asseoir et je vais maintenant donner la parole à Aurore. Et surtout, ne quittez pas votre petite enveloppe là, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite. Enfin, certains s'en sont déjà servis, sans doute, et nous les remercions chaleureusement. Mais peut-être que d'autres auront l'idée ce soir de s'en servir encore.
Merci. Merci d'avoir fait l'annonce des offrandes. Donc, nous avions prévu avec le trésorier de vous dire un petit mot. Je pense que l'étoile est beaucoup plus claire. Elle est dans l'enveloppe d'offrande et vous savez, c'est une étoile phosphorescente. C'est-à-dire, quand elle est dans l'obscurité, elle ne brille pas, sauf si on l'a chargée avant. Si vous la chargez de lumière, vous êtes dans l'obscurité, vous la ressortez et elle brille de tous ses feux. Vous aurez également tout à l'heure un petit cadeau en sortant. Donc nous serons ravis de vous faire un cadeau. J'espère que vous penserez également à l'oratoire du Louvre, à nos pasteurs, à toi Béatrice, un immense merci d'être avec nous. Un immense merci à ta famille, parce que Noël est une histoire de ta famille aussi, une histoire de famille, et elle est là près de toi. C'est très touchant. Merci aux gardiens, parce qu'on a parlé de concierges et de gardiens. Merci à eux d'être là, qui filment, qui permet aux gens qui sont à la maison de pouvoir aussi nous suivre. Merci à toi Gérard, qui est également gardien, parce que nous sommes chez eux ce soir. Ils habitent dans le temple. Et également merci à toi David, de nous avoir enchanté cette nuit de Noël. C'est le moment de l'offrande. On vous retrouve tout à l'heure à la sortie aussi pour un joyeux Noël. Mais vraiment, un grand merci à vous tous. Merci à toi, Béatrice.
Voilà, et je voulais vous dire que David nous avait joué ce soir des Noëls de Balbastre. Je vous conseille l'écoute de ces musiques magnifiques, si vous ne connaissez pas encore cet auteur. Et puis aussi, vous avez eu le prélude dit de Noël de Bach en entrée de ce culte. Merci David. Et vous avez un panier connecté pour ceux qui n'ont que les cartes bleues. Voilà, je profite de ce petit moment d'arrêt pour souhaiter une très belle nuit de Noël à ma consœur Agnès Adeline Schaeffer, qui regardera sans doute ce culte en différé, voilà, et vous dire qu'elle va vous retrouver, ne vous inquiétez pas, après le 26 décembre, elle sera avec vous, et donc vous pourrez la retrouver pour le 1er janvier avec Gilles Castelnau, ils seront ensemble au culte, voilà. Je voulais ne pas l'oublier en ce soir de Noël, puisque nous travaillons sans cesse ensemble, dans l'amitié et la joie, ensemble ici. Je vous invite à la prière. Éternel, en cette nuit de Noël, nous pensons particulièrement à tous les enfants de par le monde, tous ces milliers d'enfants qui ne vivent pas dans la sécurité. Permets, Seigneur, que jamais nous ne laissions faire ce mal aux enfants, que nous pensions toujours à eux en premier, que nous regardions nos folies, nos envies de pouvoir, nos détestations, nos haines, au regard d'un enfant, et que nous nous souvenions du mal que nous faisons quand nous préparons un monde de violence pour eux. Éternel, en ce soir de Noël, nous voulons nous souvenir de tous ceux qui vont fêter Noël avec une chaise vide autour de la table. Et nous pensons à toutes ces familles endeuillées qui traversent cette période avec le cœur serré. Éternel, dans cette nuit de Noël, nous te prions pour les pays en guerre, pour lesquels il nous faut sans cesse militer pour la paix, une paix juste, pour que les conflits ne rejaillissent pas quelques années plus tard, parfois plus meurtriers encore. En cette nuit de Noël, nous te prions pour la puissance de la parole. Cette parole qui empêche parfois les coups, cette parole qui intime la sagesse là où la brutalité aurait le dernier mot sans elle, cette parole que nous échangeons et qui fait toute notre humanité. Apprends-nous à la vénérer quand elle est juste, et à connaître assez sa puissance pour ne pas la laisser dévoyer par ceux qui l'utilisent pour le mal. Éternel, nous te prions pour nos églises, ces lieux où, dans notre société, elles offrent un moment de rencontre, un moment de chaleur, un moment de partage. Dans une église, nous sommes tous égaux, puisque nous sommes tous sous ton regard. Alors, Éternel, bénis-nous et permets que nous soyons toujours ces carrefours, ces lieux où les gens puissent se rencontrer, se reconnaître, s'apprécier et se comprendre. Éternel, en cette nuit de Noël, nous voulons te prier pour tous ceux qui luttent contre des maladies terribles qui leur font perdre espoir à certains moments, et pour tous ceux qui les soignent ce soir même dans les hôpitaux. Que tous ceux-là qui sont au travail, les uns avec beaucoup de patience, les autres avec beaucoup de courage, que tous le fassent dans ce même esprit de choisir ensemble la vie. avec tous ses contours, toutes ses difficultés, mais aussi tous ses moments de grâce. Et ensemble, nous voulons te dire, comme Jésus l'a appris à ses disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes venus ce soir, peut-être même pour la première fois, qui avez passé le pas de cette porte de ce temple, vous êtes ici, chez vous, éternellement, tant que ce temple sera debout. Vous êtes ici, dans le lieu où un tout petit enfant vous accueille et où il vous rappelle votre humanité. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce, qui bénit tous les êtres sur cette terre, vous bénit et vous garde. Amen. Joyeux Noël à tous. Et je vous invite à prendre le cantique 112 pour finir ce moment de veillée ensemble, mais vous allez le continuer sans doute après ailleurs. Ô nuit bienveillante, le cantique 112.